Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment traiter l'alopécie? Perte de cheveux chez les femmes. Un texte de Catherine Crépeau, paru le 1er juillet 2025 dans le magazine Protégez-vous. Rien de plus normal que de trouver des cheveux sur votre brosse et dans votre douche, puisque vous en perdez de 50 à 100 par jour. Ils sont alors remplacés par de nouvelles racines, ce qui assure le renouvellement de votre chevelure. Mais parfois, le système se dérègle et entraîne une chute des cheveux plus abondante, de façon temporaire ou permanente. Si cela vous arrive, consultez un médecin qui pourra déterminer l'origine de votre alopécie et vous orienter vers un traitement adéquat. Les causes de la perte de cheveux chez la femme. La perte de cheveux peut être le symptôme de problèmes de santé tels que des déséquilibres hormonaux ou des maladies auto-immunes apparentées au lupus ou à un dysfonctionnement du système immunitaire ou de la glande thyroïde. D'où l'importance de consulter un médecin. L'alopécie peut aussi survenir à la suite d'un accouchement, d'un choc émotionnel, d'une intervention chirurgicale, de traitement de chimiothérapie, ou être provoqué par le stress. Les carences en fer, en zinc et en silicium et les troubles de l'alimentation sont également associés à la chute des cheveux, de même que la prise de certains médicaments, comme ceux contre l'épilepsie, l'hypertension ou le cholestérol. Dans tous ces cas, on parle de chute passagère, soit d'une alopécie de type effluvium télogène, due à un stress physique ou psychologique, explique le docteur Alain Sabourin de la clinique médico-esthétique du même nom, qui pratique des greffes de cheveux depuis une trentaine d'années. Généralement, les cheveux repoussent lorsque la situation revient à la normale ou que la patiente cesse de prendre le médicament en cause. L'alopécie androgénétique ou génétique. La forme la plus fréquente de perte de cheveux est l'alopécie androgénétique. Cette affection héréditaire et irréversible touche environ 25 % des femmes dans la soixantaine et plus de 70 % des hommes et 57 % des femmes de plus de 80 ans, selon le manuel Merck, une référence mondiale en matière d'information médicale. L'alopécie androgénétique est causée par l'enzyme 5-alpha-réductase qui stimule la production de la dihydrotestostérone, DHT, une hormone dérivée de la testostérone qui est essentielle au développement du fœtus mâle et des caractéristiques sexuelles à la puberté. Chez les hommes, la DHT accélère et raccourcit le cycle de pousse du cheveu, qui se miniaturise, s'amincit et tombe plus rapidement. Le rôle de la testostérone et le mécanisme ne sont pas aussi bien compris chez les femmes, mais l'effet sur la chevelure demeure le même. On sait également qu'elles perdent en général leurs cheveux plus tard dans la vie, souvent après la ménopause, et selon un schéma moins prévisible. Contrairement aux hommes, qui se retrouvent la plupart du temps avec le dessus du crâne complètement dégarni et une bande de cheveux, la majorité des femmes présentent plutôt une chevelure qui devient clairsemée sur l'ensemble de la tête. Les traitements contre l'alopécie offerts aux femmes. Le traitement de l'alopécie est étroitement lié à la cause de la perte de cheveux, d'où l'importance d'identifier celle-ci. Mais sachez que si votre chute capillaire est d'origine héréditaire, les cheveux tombés ne repousseront pas. Les traitements visent à accroître la densité des cheveux existants et à en retarder ou à en camoufler la chute. Les cheveux vont devenir plus gros, plus forts et vont couvrir davantage. Mais il n'y aura pas de nouveaux cheveux, prévient le docteur Sabourin. Seule la greffe en ajoutera dans les espaces dégarnis. Et encore, parce que les cheveux auront été prélevés sur votre propre tête. Les shampoings et les lotions capillaires. Les shampoings, lotions capillaires et sérums censés nourrir, revitaliser ou fortifier les cheveux que vous trouverez chez le coiffeur, dans des cliniques spécialisées, en pharmacie et en ligne, ne valent pas grand-chose pour empêcher la perte de cheveux, affirme la docteure Noémie Vézina, directrice médicale et cofondatrice de la clinique de greffe de cheveux FollicleMD à Montréal. Ils peuvent rendre vos cheveux plus brillants ou soyeux, créer un environnement sain qui facilite la pousse du cheveu et, grâce aux fibres végétales qu'ils contiennent, donner du volume à vos cheveux. Mais aucune étude sérieuse n'a démontré que ces produits peuvent favoriser la pousse des cheveux ou empêcher leur chute. Les vitamines et les suppléments. Vous trouverez des suppléments comme NutriCap, Alpha Régul et Anacap contenant des vitamines du groupe B qui stimulent la fabrication de kératine, la protéine formant les cheveux, ainsi que de zinc. Ces produits se targuent de contribuer à la croissance des cheveux ou de freiner la perte de densité capillaire. Les suppléments et les vitamines peuvent aider si la perte de cheveux découle d'une carence nutritionnelle ou pour les femmes âgées qui mangent moins et ne puisent pas toutes les vitamines dont elles ont besoin dans leur alimentation. Mais aucune étude n'a prouvé leur efficacité, souligne la Dr. Vézina. Plusieurs sont approuvés par Santé Canada et portent un numéro de produits de santé naturelle, PSN, ce qui certifie qu'ils sont sûrs lorsqu'ils sont utilisés conformément au mode d'emploi, mais cela ne garantit pas toujours leur effet. Il n'y a pas d'études de qualité qui montrent l'efficacité des PSN pour la perte de cheveux. Comme le profil d'effet secondaire est faible, je dis à ceux qui veulent l'essayer, pourquoi pas, mais il ne faut s'attendre à rien, ajoute Alec Broder, pharmacien propriétaire à Montréal. Les médicaments contre la perte de cheveux. Les médicaments prescrits contre la perte de cheveux sont rarement remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, ou les assurances collectives. Dans plusieurs cas, ils sont couverts par le régime public au dosage correspondant à leur usage autorisé par Santé Canada pour un problème de santé, par exemple l'hyperplasie bénigne de la prostate pour le finastéride, mais pas à celui, souvent moindre, utilisé pour traiter l'alopécie. Le minoxidil, Rogaine. Le minoxidil, commercialisé sous le nom Rogaine, est le seul médicament en vente libre qui a démontré une certaine efficacité pour favoriser la pousse de cheveux. Le fabricant prétend que son produit peut revitaliser les follicules pileux, stimuler la repousse et réactiver le cycle de croissance. Dans les faits, les nouveaux cheveux sont fins, fragiles et ternes, selon le Dr. Sabourin. Le produit va cependant stabiliser la perte de cheveux, et pour les femmes, c'est intéressant parce qu'elles ont peu d'options. On va le suggérer en combinaison avec un autre traitement, comme la biostimulation. Le produit se présente sous la forme d'une mousse à appliquer sur le cuir chevelu une ou deux fois par jour. Les résultats s'observent au bout de 4 à 6 mois et s'estompent dès qu'on cesse le traitement. Le minoxidil peut occasionner certains effets secondaires, comme des maux de tête ou une irritation du cuir chevelu. Une version orale, plus facile à prendre, est désormais offerte. Le Lonitène, un hypertenseur vendu sur ordonnance, comporte cependant son lot d'effets secondaires. Il est souvent mal toléré et peut entraîner des chutes de pression, en plus de favoriser la pousse des poils, pas uniquement des cheveux. Les femmes n'ont pas le goût de se retrouver avec une moustache et des poils au menton, souligne Alec Broder. Vous écoutez « Comment traiter l'alopécie, perte de cheveux chez les femmes », un texte de Catherine Crépeau, paru le 1er juillet 2025 dans le magazine « Protégez-vous ». Le finastéride, Propecia. Vendu sur ordonnance, le Propecia est d'une très grande efficacité pour ralentir la chute des cheveux. Son ingrédient actif, le finastéride, bloque la transformation de la testostérone en DHT, la molécule qui se lie aux follicules pileux et qui entraîne leur amincissement. Il est cependant peu recommandé chez les femmes puisqu'il peut causer des malformations fœtales. Certains médecins acceptent toutefois de le prescrire à leurs patientes ménopausées, bien qu'il ne soit pas approuvé pour cet usage par Santé Canada. Ça fonctionne assez bien pour les femmes atteintes d'alopécie androgénétique, explique le Dr. Sabourin. Et comme elles ne subissent pas les effets secondaires propres aux hommes, chez qui le médicament interfère avec la testostérone, ce qui peut entraîner des problèmes érectiles et une diminution de la libido, par exemple, on peut leur prescrire des doses plus fortes qu'à ces derniers. Par contre, si la patiente cesse le traitement, la calvitie reprend. L'emploi du finastéride est aussi très controversé en raison des importants effets secondaires persistants de cette substance, comme l'impuissance sexuelle, les pensées suicidaires, des troubles musculo-squelettiques ou digestifs, ou l'anhédonie, un trouble psychologique qui empêche de ressentir de la joie ou du plaisir, même après l'arrêt du traitement. Depuis 2018, la prestigieuse revue Prescrire classe le finastéride dans sa liste de médicaments plus dangereux qu'utile et recommande qu'il ne soit pas employé contre la calvitie. La spironolactone, aldactone. Un traitement à base de spironolactone, comme l'aldactone, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, peut être prescrit en raison de l'effet anti-androgène de cette substance, c'est-à-dire qu'elle bloque les hormones à l'origine de la perte des cheveux. Celle-ci est toutefois contre-indiquée chez la femme enceinte à cause de ses effets féminisants sur le fœtus mâle et des anomalies congénitales qu'elle peut provoquer. La spironolactone peut être prescrite chez les femmes qui ne sont pas ménopausées, mais il est conseillé de cesser la médication avant de tomber enceinte et durant la grossesse, précise la docteure Vézina. Alec Broder hésite pour sa part à conseiller la spironolactone pour traiter la perte de cheveux en raison des nombreux effets secondaires de celle-ci, notamment sur le taux de potassium dans le sang. Les traitements chirurgicaux et non chirurgicaux contre la perte de cheveux. Comme ils relèvent de la médecine esthétique, ces traitements ne sont pas remboursés par la RAMQ, et ce, même s'ils sont administrés à la suite d'une chimiothérapie. L'intervention au laser. La biostimulation ou traitement au laser de faible puissance, Low Level Laser Therapy ou LLLT, favorise la circulation sanguine à la base des follicules pileux, ce qui entraîne une meilleure oxygénation. Cela permet de stimuler la pousse, explique le docteur Sabouret. Les cheveux existants seront plus gros et plus forts, mais il n'en poussera pas de nouveau. Combiné au Rogaine, il peut donner des résultats supérieurs à ceux obtenus en utilisant ces deux options séparément. Le traitement s'étale sur 12 mois, à raison de 2 visites par semaine au cours des 2 premiers mois, d'une par semaine les 7 mois suivants, et finalement, d'une tous les 15 jours les 3 derniers mois. Il faut ensuite prévoir quelques visites par année pour en maintenir les effets. Vous trouverez des casquettes et des casques dotés d'un éclairage à DEL pour effectuer des séances à domicile avec une efficacité similaire à celle obtenue en clinique, selon la concentration de lumière utilisée. Il est conseillé de faire de la biostimulation de 20 à 25 minutes 2 à 4 fois par semaine. Le micro-aiguillage, la mésothérapie, etc. Chaque clinique semble avoir son terme pour désigner le micro-aiguillage, qui consiste à injecter un sérum spécialement élaboré pour accroître la densité de votre chevelure. L'idée est de provoquer des micro-traumatismes pour stimuler la circulation sanguine. Il n'y a pas d'études permettant d'établir un profil de candidat et un protocole d'utilisation, la fréquence de traitement, le risque à long terme. Je ne le recommande pas, tranche la docteure Vézina. Les injections de plasma riches en plaquettes, PRP. Ce traitement consiste à vous prélever une petite quantité de sang pour en extraire, à l'aide d'une centrifugeuse, les plaquettes et le plasma, riches en facteurs de croissance qui favorisent la production de collagène et d'élastine. L'extrait obtenu est ensuite réinjecté dans votre cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux et les fortifier. Des études montrent une amélioration de la qualité des cheveux existants chez certains patients, mais on ne peut rien garantir, indique le docteur Sabourin, qui ajoute que l'injection doit être bien exécutée, à une profondeur et à un endroit précis. Les résultats dépendent des facteurs de croissance du patient, d'où l'importance de choisir le bon candidat. Par exemple, une personne jeune qui ne fume pas et ne prend pas de médicaments a possiblement de bons facteurs de croissance, illustre la docteure Vézina. Le PRP est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'anémie grave ou qui ont des problèmes de coagulation. La thérapie par exosome. Cette méthode utilise des exosomes, des vésicules extracellulaires qui contiennent des facteurs de croissance, des protéines et de l'ARN, pour stimuler la régénération des cellules du cuir chevelu et la pousse des cheveux. Les exosomes sont appliqués sur le cuir chevelu après une séance de micro-aiguillage ou un traitement au laser, ou injectés directement sous la peau. Après quelques mois, les cheveux seraient plus forts et plus épais. Mais attention, les injections d'exosomes ne sont pas approuvées au Canada. Le docteur Sabourin y voit cependant un traitement d'avenir. Je suis prudent, mais je crois qu'il y aura des développements intéressants avec la médecine régénérative. Des produits de meilleure qualité sont à venir. La greffe de cheveux. Pratiquée sous anesthésie locale, l'intervention consiste à prélever des cheveux là où ils sont nombreux, généralement à l'arrière du crâne, pour les transplanter dans les zones dégarnies. C'est le seul traitement permanent contre la calvitie. Malheureusement, peu de femmes sont de bonnes candidates à la greffe. La plupart ont la chevelure clairsemée sur l'ensemble du crâne. Elles n'ont donc pas suffisamment de cheveux dans la zone donneuse, à l'arrière de la tête, pour faire des prélèvements, explique le docteur Sabourin. Et le taux de survie des cheveux greffés est moindre chez les femmes, sans qu'on sache exactement pourquoi, ajoute la docteure Vézina. Les options qui masquent la perte de cheveux. Le volumateur capillaire ou prothèse partielle. Certains salons de coiffure et cliniques capillaires proposent un volumateur, soit une prothèse partielle qui couvre les zones dégarnies, de la frange à la tête entière, pour donner du volume à votre coiffure. Il se fixe sur les cheveux naturels à l'aide d'un adhésif ou de pinces. Le volumateur est fait sur mesure à l'aide de cheveux naturels ou synthétiques. Sa texture et sa couleur sont sélectionnées par une coiffeuse styliste pour s'harmoniser avec vos cheveux. Il convient aux femmes dont la chevelure est clairsemée ou à celles qui veulent créer un effet de volume. Les prothèses en cheveux naturels peuvent être colorées, frisées et coiffées comme vous le feriez en temps normal, mais pas celles en cheveux synthétiques. Il est recommandé de retirer le volumateur durant la nuit pour éviter qu'il ne s'abîme au contact de l'oreiller. Le résultat imite bien la chevelure naturelle et peut répondre aux besoins de certaines femmes, selon le docteur Sabourin. Il y a cependant un risque d'endommager les cheveux existants si la prothèse est portée sur une longue période ou si elle est fixée de façon serrée. Selon Alec Broder, les chapeaux peuvent avoir le même effet. En frottant sur les cheveux amincis, ils peuvent les fragiliser et précipiter leur chute. Les poudres densifiantes. Ces produits proposés dans certains salons de coiffure, cliniques capillaires et sur Internet peuvent donner une illusion de volume. Les poudres densifiantes, qui se composent de fibres de kératine, s'appliquent à la racine des cheveux avant le séchage et le coiffage. Elles se lient à vos cheveux et les gonflent, créant un effet de volume qui camoufle le fond de la tête. Plusieurs teintes sont offertes pour s'harmoniser avec votre chevelure. Vous pouvez renforcer la cohésion cheveux-poudre au moyen d'un fixatif à base de kératine conçu à cet effet. Il s'agit d'une solution de maquillage efficace et économique. C'était « Comment traiter l'alopécie, perte de cheveux chez les femmes », un texte de Catherine Crépeau, paru le 1er juillet 2025 dans le magazine Protégez-vous.
Marco Pilotto peint à plat grâce à une orthèse qui le rend autonome dans sa création. Témoignage paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad. Le style de Marco Pilotto est reconnaissable. C'est ce qui fait sa signature, ce qui lui a certainement permis d'avoir sa propre galerie privée dans un restaurant de Baie-Saint-Paul, une chance dans une ville d'artistes. Est-ce aussi dû au fait que le peintre, tétraplégique depuis 21 ans, a une technique toute personnelle de peindre à plat? Notez que ce n'est pas par choix, mais bien parce qu'il n'a pas assez de force pour lever longtemps sa main pour créer sur un chevalet. Ce qui est certain, c'est que Marco Pilotto a trouvé sa raison de vivre, sa liberté, son nirvana à lui dans la peinture. Bienvenue dans son monde. Déjà tout petit, quand sa mère lui disait d'aller jouer dehors au hockey comme le faisaient ses camarades, Marco Pilotto préférait l'intérieur, le bricolage. Il aimait aussi la BD et dessinait beaucoup. Je suis de la génération de Tintin. Ses études l'ont amené au graphisme et à la publicité pendant une session et demie avant que n'éclate une grève au cégep. il a finalement quitté les bancs de l'école pour vivre une vie de sportif. C'est un accident de ski, le 20 janvier 2004, qui l'a rendu tétraplégique à 43 ans. Est-il passé facilement du sport à la peinture? Oui et non. Même s'il avait dessiné toute sa vie, en devenant tétraplégique, Marco a perdu l'usage de ses mains. Il lui a alors fallu redoubler de créativité pour retrouver une certaine dextérité. C'est après son passage au Centre de réadaptation de Québec que Lise Vachon, conseillère principale en intégration à Mémo Québec, l'a emmené en visite chez un sculpteur-peintre de l'île d'Orléans, Yves Bussière, dont l'une des sculptures ornait l'entrée de l'IRDPQ, Institut de réadaptation aux déficiences physiques de Québec. Citation : Ça a été un mouvement déclencheur pour moi. Je suis rentrée dans sa maison adaptée. Il était tétraplégique comme moi. Dans son atelier de peinture, j'ai vu sur une table une orthèse avec un crayon. Je me suis mis à dessiner sur un petit bout de papier. À ce moment-là, j'ai retrouvé quelque chose. Je sais que mon hôte a gardé le papier. Fin de citation, raconte Marco en détail. L'autonomie grâce à un don. Plus tard, de retour au centre de réadaptation pour traiter un problème de santé, l'aspirant peintre parvient, grâce à Lucie Goulet, alors cadre, à obtenir une orthèse grâce au don d'un office de charité. Citation : Cela m'a permis d'interchanger mes crayons et mes pinceaux. Je retrouvais la liberté de saisir et de créer. Fin de citation, explique l'artiste. C'est à partir de l'acquisition de cette autonomie que Marc Pilotto a trouvé un nouveau souffle dans la création artistique. Il n'avait que dessiné auparavant. Jamais touché un canevas ni un pinceau. Citation : Il faut croire que je possédais ça en moi. Fin de citation, constate-t-il simplement. Autodidacte, Marco a commencé à créer des personnages, des paysages, réaliser des mises en scène et des vues aériennes par lui-même. Il s'est découvert une passion qui ne l'a plus quitté. À tel point qu'il se rend dans son atelier chaque jour et y passe entre 3 et 6 heures. Marco peint surtout à plat, mais demande de temps en temps à des amis de lui mettre la toile sur un chevalet pour pouvoir voir le résultat d'une autre perspective. Papa va devenir peintre. Et quand ses filles l'ont quitté pour aller explorer l'Europe entre le cégep et l'université, elles lui ont demandé ce qu'il allait faire pendant leur absence. Leur père leur a répondu d'un air assuré : Papa va devenir peintre. Elles ont ri. Mais elles ont aussi certainement été très surprises de découvrir, à leur retour 2 ans plus tard, en juin 2012, un artiste qui présentait sa première exposition à la Galerie Mont-Sainte-Anne sous l'aile de Giovanni Gelometta. Depuis, Marco expose tous les 2 ans à Baie-Saint-Paul, où il réside depuis avril 2019, tout en ayant une résidence au restaurant La Piada avec 40 œuvres exposées. Citation : Je me suis liée d'amitié avec le propriétaire et un soir il m'a dit « La Piada est à toi », se souvient Marco avec une certaine fierté. La satisfaction du peintre, c'est d'entendre les commentaires des personnes qui ont acheté ses tableaux, de savoir que ses œuvres touchent les gens et les rendent heureux. Citation : Je ne suis pas attachée à mes tableaux, même pas le premier. C'est un ami qui l'a acheté. J'offre aussi des tableaux à mes filles et à mes 4 petits-enfants. Fin de citation, explique l'artiste qui a retrouvé la liberté et la joie de vivre par la peinture. C'était Marco Pilotto peint à plat grâce à une orthèse qui le rend autonome dans sa création. Témoignage paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad.
Des lampadaires solaires qui se répandent à la vitesse de l'éclair. Un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Les lampadaires solaires de Solidel font leur chemin et se répandent aux 4 coins du Québec. L'entreprise drummondvilloise réussit à intéresser de plus en plus de municipalités à ses produits, alors que ses ventes ont quadruplé dans la dernière année. Répondons à la première question qu'on est tenté de poser devant un tel concept. Non, les lampadaires ne deviennent pas inutiles par temps de neige. Les panneaux solaires sont positionnés à la verticale le long du poteau. Donc, on est capable d'accumuler vraiment beaucoup d'énergie, même dans des périodes un peu plus difficiles comme l'hiver, explique Samuel Tremblay, directeur général de Solidel. La batterie des lampadaires se recharge durant la journée. Puis, quand il fait noir, celui-ci commence à éclairer. Les clients peuvent choisir les paramètres d'éclairage qui leur conviennent, autant en ce qui a trait à l'intensité de l'éclairage qu'aux heures d'activité. Par exemple, dans un parc nature qui ferme à 23 heures, les lampadaires peuvent s'éteindre à 7 heures pour ne pas déranger inutilement les petits animaux qui y vivent et par la suite se rallumer seulement s'ils détectent un mouvement. En plus de ces lampadaires solaires allant de 15 à 36 pieds de haut, l'entreprise fabrique aussi des bollards lumineux ainsi que des abris solaires qui offrent de l'éclairage et des prises de courant pour recharger ordinateurs, téléphones ou même vélos électriques. Pour l'instant, environ 95 % de la clientèle de Solidel se compose de municipalités. On retrouve ces produits dans des parcs, des stationnements, le long de pistes cyclables ou encore de promenades urbaines et même de rues de quartiers résidentiels. Ces produits peuvent être vus dans des villes de diverses régions comme Montréal, Laval, Sainte-Julie, Drummondville ou encore Fermont. Rachat en 2022. Après avoir fait un baccalauréat en finance à l'Université de Sherbrooke, Samuel Tremblay a travaillé pendant plus de 8 ans pour l'entreprise Patio Drummond, qui fabrique les bases de béton sur lesquelles sont ancrées les lampadaires. L'entrepreneuriat l'appelait et en 2022, il a acheté Solidel de concert avec Patio Drummond dans l'objectif de développer davantage le produit et de faire passer sa commercialisation à l'étape supérieure. Jusqu'à maintenant, l'histoire d'entrepreneuriat de l'homme de 33 ans se passe bien. Les ventes ont quadruplé au cours de la dernière année. Des centaines de produits Solidel peuvent être aperçus dans le paysage québécois. Samuel Tremblay estime que c'est notamment en raison des multiples avantages de la technologie Solidel qui vont au-delà des économies sur les factures d'électricité. Comme les lampadaires n'ont pas à être reliés au réseau électrique, les villes n'ont pas à faire des travaux d'excavation pour passer des fils lors de l'installation. Celle-ci est d'ailleurs gérée par Solidel. Ils n'ont pas besoin de monopoliser leurs équipes et ils ont de l'éclairage la journée même, pas besoin d'attendre un branchement à Hydro-Québec, indique Samuel Tremblay. Les lampadaires sont assemblés à Drummondville par Solidel et plusieurs des pièces sont fabriquées par des fournisseurs québécois. Un lampadaire classique se vend entre 4 000 et 8 000 $ selon les paramètres souhaités. Évidemment, un simple bollard lumineux coûtera moins cher et un produit plus sophistiqué comme un abri solaire pourra être plus coûteux. Côté entretien, un changement de batterie doit être fait tous les 10 à 15 ans. Samuel Tremblay ne le cache pas. Les ambitions de Solidel sont d'avoir le plus de lampadaires possible dans le monde. Mais chaque chose en son temps. La prochaine étape, c'est de s'en aller vers l'Ontario, dit-il. C'était « Des lampadaires solaires qui se répandent à la vitesse de l'éclair ». Un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.